Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pierre-Martin Aubel sera notre invité dans cette édition spéciale été. Il nous parlera de son défi de malade, 30 jours sur un vélo à travers la France, pour porter l'idée d'un label H24 pour des villes et territoires handi-accueillants. Notre invité dans quelques minutes. Mais d'abord le reste de l'actualité, les fumées des gigantesques incendies de Gironde et des Landes ont été charriées jusque chez nous par les vents d'ouest. La qualité de l'air restait hier très dégradée dans une très grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes en raison d'une forte concentration de particules fines. La bonne nouvelle ce matin, c'est que la préfecture a levé la vigilance pollution, misant sur le ralentissement du vent pour dissiper le nuage. Inutile pour autant de sortir les masques en ville, ils sont inefficaces contre ces particules. Pour vous protéger, privilégiez plutôt l'aération de votre logement aux heures les plus fraîches. Notez que dès ce mardi, l'ozone va prendre le relais des fumées, alors qu'une nouvelle vague de chaleur menace la région avec des pics attendus à 40 degrés en fin de semaine. 1 million d'euros de dégâts, c'est la facture salée laissée par les violents incidents survenus samedi sur le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin dans le nord de l'Italie, au cœur du Val de Suse. Ce rassemblement contre le projet controversé depuis plus de 30 ans a dégénéré. Plusieurs centaines d'individus, dont de nombreux Black Blocs venus de France, ont affronté les forces de l'ordre à coups de projectiles et d'engins incendiaires. Bilan, plus de 120 policiers et carabiniers blessés sur le chantier. La dizaine d'ouvriers présents a été évacuée à temps, mais aujourd'hui, le promoteur franco-italien Telt panse ses plaies. Les travaux de déblaiement commencent à peine et l'impact de ces destructions sur le calendrier du chantier reste encore à évaluer. Décision irresponsable. Place publique réagit après l'abandon du projet de la rive droite du Rhône. Un chantier pourtant prêt à démarrer qui prévoyait plus de 1000 arbres plantés pour lutter contre les îlots de chaleur. Alors que la région lyonnaise subit sa quatrième canicule de l'été, Place publique accuse la majorité métropolitaine de Véronique Sarcelli de faire le choix du tout et et de laisser la ville étouffée sous la pollution. Au-delà de l'urgence climatique, le parti dénonce un gâchis économique et humain, citant 5 ans de concertation balayés et des pénalités financières pour stopper les contrats. Il exige notamment une transparence totale sur le coût réel de cet abandon. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre les polluants éternels. Au sud de Lyon, l'Institut éco-citoyen du territoire lyonnais est désormais officiellement lancé. Né de la mobilisation citoyenne autour des pollutions au PFAS, cet institut indépendant et apolitique vise à produire une expertise scientifique fiable pour éclairer les décisions publiques. À sa tête, Louis Delon, docteur en chimie et figure locale du combat pour la qualité de l'eau. La rentrée s'annonce intense pour le tout jeune institut. Objectif, convaincre les collectivités locales de rejoindre le projet et lancer les premières études de terrain. Les adhésions sont d'ores et déjà ouvertes pour les citoyens et les associations.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Bonjour Pierre-Martin Aubel.
Bonjour Gérald.
Vous nous avez tenu en haleine l'été dernier en parcourant un peu plus de 3200 km, rappelez-moi.
C'est ça, c'était 3252 km et puis un peu plus de 30 000 de dénivelé pour un Tour de France du handicap.
Voilà, et il faut rappeler que c'était évidemment des kilomètres parcourus à vélo. Et pour sensibiliser à une maladie dont on parle peu, qui est la sclérose en plaques, vous êtes atteint d'ailleurs de cette maladie. Le défi STEP, c'était quoi? C'était un Tour de France pour dire stop à cette sclérose en plaques?
Bah, c'est ça. L'an dernier, le Tour de France a consisté à dire, en fait, on peut être atteint d'une maladie. Alors, moi, c'est effectivement la SEP, mais d'autres, ça va être d'autres maladies neuro. Et puis, de manière plus globale, on peut être atteint d'un handicap, d'une maladie chronique un peu importante, et pour autant avoir plein de rêves, plein d'envies, plein de désirs, plein de projets. Moi j'ai choisi le vélo parce que je fais du vélo tout le temps, et c'est vrai que à travers ce défi, c'était de montrer que en fait c'est possible quand on se prépare, quand on se motive, quand on a le mental qui est prêt. On trouve des solutions, et voilà. Donc l'idée, c'était vraiment un message un peu qui se veut positif par rapport à des gens qui sont atteints eux directement ou leurs proches, pour dire aussi ne regardez pas les gens malades comme des malades. Ce ne sont pas que des malades, mais c'est aussi des gens qui peuvent faire plein de choses. Avec une motivation et une volonté, on peut y arriver. Voilà, donc c'était une preuve en image.
Ce défi vous a donné en quelque sorte l'idée d'aller un peu plus loin, d'élargir votre réflexion autour du handicap. Vous nous proposez aujourd'hui un nouveau défi. Vous allez vous atteler à ce défi à partir du 1er août. C'est quoi exactement ce défi?
Effectivement, l'an dernier, j'ai fait plein de rencontres avec des communes. L'idée, c'était au travers de ce Tour de France, en fait, d'aller à la rencontre d'élus, d'acteurs engagés sur leur territoire, et puis de voir en fait ce qui se faisait de manière positive pour le handicap. J'avoue que j'ai vu plein d'initiatives intéressantes, mais en même temps, pas forcément dupliquées, pas forcément à grande échelle, et avec pas mal de freins ou d'objections. Et né pendant ce Tour de France, parce que j'avais quand même le temps de réfléchir hein, pendant les longues montées dans les cols des Alpes, j'ai réfléchi à pas mal de choses, et notamment à cette idée de développer un label positif sur le monde du handicap. Et aujourd'hui, quelques mois ont passé, on a réfléchi, on a travaillé, on a fait des brainstorms sur le sujet, et en fait, on va lancer un label à l'automne, qui s'appelle le label H24, parce que le handicap, ça se vit H24, 24 heures sur 24, et c'est un label qu'on va proposer aux territoires pour que les territoires deviennent plus handi-accueillants. Et l'idée d'un label, ça se veut très positif, c'est pas une contrainte, c'est pas une loi, les lois sont là déjà, voilà, elles sont comme elles sont, mais aujourd'hui, nous, c'est plutôt un label en disant, communiquons sur ce qui fait de bien, et puis surtout, inspirons les communes d'à côté pour dire, on peut faire plein de choses. Donc un label, ça se veut très vertueux, très positif, et en même temps, on souhaite créer un élan au niveau d'un territoire, des territoires, dans le sens où c'est pas que la commune qui est actrice de son territoire, la commune, elle gère son espace public, elle fait comme elle peut pour gérer l'espace et l'accueil du public, mais il y a aussi de créer une dynamique positive sur le territoire avec les entreprises, avec les clubs, les associations sportives, culturelles, les commerces, les citoyens, les centres de santé, bref, tous les acteurs qui font le territoire pour dire, sous l'égide d'une mairie qui veut, ou une communauté de communes qui veut s'engager, bah devenons un territoire handi-accueillant. Donc on développe un label qui est assez ambitieux, alors on est parti pour 10 ans de travail, parce que ça va être long et lent, mais c'est pas grave, et pour amorcer ce label, bah j'ai rien trouvé mieux que de faire un grand défi cet été, et je vais écrire en géant H24, qui est le nom du label, qui va m'emmener alors de Nantes à Cherbourg, en allant après sur Tours, Le Mans, Limoges, Moulins, Vichy, Yssingeau, le Puy-en-Velay, enfin tout un tas de villes, et puis évidemment finir par le Mont Ventoux, qui est mon jardin de vélo favori.
Comment on fait pour recréer une dynamique autour du handicap au niveau des territoires? C'est quoi le problème? C'est les moyens, c'est le timing, on le voit quand il y a une alternance par exemple politique, il y a des choses qui se défont alors qu'elles s'étaient tricotées auparavant. C'est un peu ça le problème, c'est quoi?
Déjà, le sujet handicap est très compliqué parce que voilà, il y a plein de situations de handicap différentes et il y a plein de choses à faire dans le domaine handicap. Mais pour autant, moi j'ai la naïveté de croire que c'est totalement transpartisan, c'est au-delà d'un mandat et on est sur un temps long. Alors, on est en début de mandat, donc je pense qu'on a fait exprès d'attendre les élections, donc celles sont passées, les équipes viennent de s'installer. Et donc l'idée, c'est de lancer cet élan de label territoire handi accueillant au début des mandats pour que les mairies aient le temps d'engager sur un plan de mandat un temps long, au moins 5 ans, 6 ans, en fait une vue à long terme sur ce que pourrait être ce territoire handi accueillant. Et objectivement, moi, quand j'ai rencontré les maires l'année dernière, j'ai souvent, quasiment tout le temps vu de l'engagement qui est très positif, qui est volontaire. Et après, il y a des objections, ça peut être des moyens, mais souvent, c'est pas une question de moyens. Ça peut être du temps, mais on trouve des solutions. Et d'où l'idée du label aussi, c'est de faire comme une boîte à outils de prêt à l'emploi, de ce qui fonctionne à un endroit peut être tellement vite dupliqué ailleurs. On veut vraiment que ce label soit non seulement un élan, mais aussi un centre de documentation pour que on puisse, en mode open source, on puisse mettre à disposition des communes, des élus, des territoires et des acteurs, plus globalement, hein, pas que la commune, des solutions qui fonctionnent.
Alors, des solutions, par exemple, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de choses que vous avez découvertes, par exemple, l'année dernière et qui pourraient s'appliquer dans d'autres communes?
Alors, ouais, j'en ai plein. Je vais en citer deux, trois. Un exemple que j'avais vu, par exemple, c'est une commune qui s'appelle La Motte-Beuvron, qui est dans le centre de la France, où ils ont eu l'idée, juste simple et géniale, d'intégrer un IME, un institut médico-éducatif pour enfants déficients, avec des troubles importants. Ils ont intégré l'IME en fait en lien avec l'école de la commune. Ça veut dire qu'en fait ils sont dans les mêmes locaux, ils partagent la cour de récréation, ils partagent la cantine, ils partageront probablement demain des activités de type les loisirs sportifs ou les activités diverses. Et en fait c'est un travail de mixité qui est juste incroyable, qui a été long à mener, qui coûte quasiment pas d'argent, mais c'est plutôt un travail long parce qu'en fait il faut impliquer à la fois l'éducation nationale, à la fois l'IME pour les faire travailler ensemble sur un projet commun.
Ça paraît naturel, hein, on se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant quoi.
Comme beaucoup d'initiatives handicap, c'est tellement simple, mais pour autant effectivement après c'est une volonté, il faut de la volonté pour le faire, il faut une vision, il faut l'énergie pour embarquer les acteurs concernés, mais en même temps maintenant que c'est fait, on aura la preuve du concept un an, deux ans après, donc c'est intéressant, il est à peu près évident que ça c'est tellement duplicable. Autre exemple, un exemple qui est plus proche de nous, qui est à Bourgoin-Jallieu en Isère, là juste à côté, et là c'est intéressant, c'est par la volonté aussi des élus et de l'adjoint en charge du handicap. En fait il y a eu une formation des agents d'accueil de la mairie, donc là c'est vraiment les services de la mairie, les agents d'accueil, à la fois l'accueil grand public, accueil état civil, mais aussi les formalités d'urbanisme, et ils font un accueil en langue des signes. Et ça a été un projet, pas très long, mais ça a été plusieurs séances de formation avec une association spécialisée pour former les agents d'accueil, une douzaine d'agents d'accueil, qui sont aujourd'hui en charge d'accueillir du public avec une logique inclusive. Et juste un point aussi, c'est que quand ces agents d'accueil sont maintenant formés au handicap de stéréotype l'en dessine. En fait, ils ont aussi une vision du handicap bien plus large et en fait une capacité, une empathie plus favorable en fait sur le handicap en général. Donc en fait, un pas pour le handicap sur un handicap, c'est un pas plus global pour l'inclusion. Donc c'est très intéressant.
Dans la langue des signes, en plus, ça peut s'appliquer effectivement dans la vie courante de ces personnes-là, quoi.
Exactement, c'est ça. Et en fait, souvent, c'est des sujets simples, concrets, qui sont très humains, très faciles, en fait. Hein. Et des projets de court, moyen terme, c'est pas du très long terme, ça se fait. Aider comme ça, j'en ai vu une dizaine. C'est pour ça que je trouve que ce label, ça va nous permettre de documenter avec les communes, les territoires concernés, ce qui peut être fait et dupliqué. Et j'insiste sur un point général, c'est que ce ne sont pas que les communes elles-mêmes, mais c'est aussi des acteurs de type entreprise, commerce, clubs sportifs, associations culturelles, établissements divers. Enfin, en fait, moi, l'idée du label, c'est vraiment d'aller chercher les acteurs du territoire, qui ne sont pas que la commune au sens public, collectivité locale, c'est aussi des acteurs privés ou associatifs qui font vivre le territoire.
C'est-à-dire et ce label, on pourrait le retrouver à l'entrée d'une commune, comme par exemple, je sais pas, les villages fleuris, par exemple, mais aussi ouais. On pourrait le trouver aussi à l'entrée d'une entreprise ou d'une institution.
C'est exactement ça. C'est l'idée du label, c'est que ça soit une marque en fait de référence, un signe de reconnaissance en fait par rapport à une logique où il y a un travail d'inclusion qui est fait. Alors après, ce sera pas parfait, on n'aura pas forcément tout le monde des niveaux 4 sur 4, mais c'est pas grave. L'idée, c'est créer un élan positif et en sachant que dans l'handicap, on part quand même de loin, d'assez loin, malheureusement. Et l'idée, c'est d'amorcer une énergie positive pour gagner des points sur ce label et puis permettre à des acteurs de se saisir du sujet, de regarder ce qui se fait à droite, à gauche, avoir des retours d'impact et en fait, de prendre le sujet à bras-le-corps et de le mettre en place.
Et au-delà de ce que vous faites l'été, là, les Tours de France que vous faites, les défis que vous faites l'année dernière, cette année, comment ça se met en place ce label? Qui travaille dessus? Est-ce qu'il y a une équipe, des salariés, une association? Comment ça se passe?
Alors, le label, en fait, on le porte dans l'association STEP. En fait, on porte ce label, on a créé une cellule, en fait, dédiée sur le label, pour lequel, en fait, on a un chef de projet qui est en cours de recrutement. On cherche du mécénat de compétences, donc je fais un appel via votre antenne à ça. L'idée, c'est d'avoir, en fait, un chef de projet qui pilote ça, parce qu'effectivement, développer un label, c'est compliqué, c'est un sujet, il faut le prendre, il faut créer de la communication, il faut créer des chartes, il faut créer tout un référentiel, il faut créer pas mal de choses. Donc, l'idée, c'est de le porter par une cellule qui, après, va à la fois porter ce label au niveau national, mais aussi être en lien et en proximité avec les territoires. Nous, l'enjeu, c'est que sur un territoire donné, on soit vraiment une force de proposition, d'accompagnement, pour permettre en fait aux élus et aux acteurs du territoire de se saisir du label, et puis d'avoir l'envie, l'idée, l'énergie en fait pour développer des actions. Donc la cellule qu'on met en place va être à disposition aussi de ces territoires.
Vous avez des contacts avec les ministères, par exemple?
Alors, par rapport au pouvoir public, on a pris l'option inverse, on a pris plutôt l'option de faire un travail de terrain. En premier lieu, un travail de terrain, alors moi, c'est ma culture sûrement chef d'entreprise, mais hyper pragmatique, de terrain. On veut, dans cette première phase pilote, avoir une dizaine de territoires qui soient nos pilotes, nos révélateurs en fait de solutions pour créer le centre de documentation, créer la doc, créer les bonnes pratiques. Et après, on fera du bruit, après on ira voir le ministère. On passera par la région, parce que les régions sont évidemment l'entité qui est hyper concernée possiblement, bien sûr. Mais on veut d'abord travailler avec les territoires. On a besoin de faire la preuve du concept au niveau des territoires vraiment opérationnels pour remonter après et démontrer que ça a un intérêt de manière bien plus importante au niveau national. Aujourd'hui, il y a des labels qui avaient été imaginés à une époque, notamment dans le handicap, et en fait portés par le ministère de la Santé et qu'on fait flop assez vite. Parce que créer un label, c'est compliqué, c'est complexe, mais moi je veux surtout le lien territoire qui est finalement l'espace naturel pour expérimenter, pour faire des choses et montrer que ça peut fonctionner.
Voilà, donc un Tour de France en forme de H24, un défi de malade, comme vous dites.
Je pars de Nantes samedi prochain, je monte les premières étapes, j'ai 8 jours à faire à peu près pour faire la lettre H, donc je vais passer de Nantes à Rennes en allant jusqu'à Cherbourg, donc quel magnifique Cotentin que je vais découvrir, et puis je redescends pour aller après sur Le Mans et Tours. Le 2 va m'emmener plutôt à tourner autour du Massif Central, autour de Clermont-Ferrand, mais en passant dans pas mal de petits cols, de petits monts et Massif Central est assez pentu, donc ça va être assez sportif. Voilà, j'ai pas mal de dénivelé. Quant au 4, là je repars du Jura, où je vais partir de Poligny, qui est une petite station dans le Jura qui est bien jolie, et je vais tracer une diagonale qui va m'emmener sur Issaingeaux, Chambon-sur-Lignon, en passant par le centre Germaine-Revel. C'est un petit clin d'œil que je ferai par rapport aux 24 heures de malade qu'on avait développé au printemps. Et puis après je fais une horizontale pour arriver sur Villard-de-Lans, via Tournon et Romans, et puis je redescends une verticale pour aller sur Bédouin, pour atteindre le pied du Mont Ventoux et faire l'ascension du Mont Ventoux comme un symbole pour dire que le label va enfin voir le jour.
Et l'étape lyonnaise, c'est
L'étape lyonnaise, c'est en fin de défi, quasiment la fin, c'est le mercredi 26, 26 août. Alors là, j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui viennent de Lyon pour faire ce départ un peu massif. En plus, ça va être une grosse étape assez difficile, mais une belle étape. Donc au départ de Lyon, je vous donnerai rendez-vous quelques jours avant sur les réseaux pour dire le lieu de rendez-vous.
Pas de problème, on vous y retrouvera. Pierre-Martin Aubel, merci d'avoir échangé avec nous sur ce beau projet de label de ville Andy accueillante H24. Merci beaucoup.
Grand merci Gérald, merci pour la mise en lumière, c'est important. Merci.
Et puis c'est l'heure du bilan pour les Nuits de Fourvière. La 80e édition du Festival Lyonnais s'est achevée ce week-end. 2 mois de festivités, 110 représentations et un final au rythme du rail, c'était samedi soir. Les théâtres romains ont désormais retrouvé leur calme. Le bilan de cette édition anniversaire reste très positif. 168 000 spectateurs ont répondu présents pour un taux de remplissage de 87%. C'est un peu moins que l'an dernier, mais avec 10 dates de moins au compteur. Cette 80e édition aura surtout été marquée par des conditions météo extrêmes, entre vagues de canicule à répétition et un incendie rapidement maîtrisé au village du festival. Les équipes ont été mises à rude épreuve. Événement rarissime, les orages du 16 juillet ont même forcé l'annulation de la soirée. Des défis climatiques qui se retrouvent au cœur des préoccupations des organisateurs, lesquels réfléchissent déjà à l'avenir du spectacle vivant sous de fortes chaleurs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition.